Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le livre de Jacques. Et avant d'écouter la lecture de la parole de Dieu, j'ai quelques images pour vous parce qu'on vit dans un monde qui est bouleversé. On a souligné à la mémoire de Polytechnique cette semaine. Alors j'aimerais si on pouvait juste avoir des images de Ferguson pour commencer. Parce que j'ai une question pour vous ce matin. J'aimerais savoir quel lien est-ce qu'il y a entre, par exemple, Ferguson, où il y a eu ce drame qui s'est passé, et l'image suivante. Un conflit entre deux petits-enfants. Quelle relation est-ce qu'il peut y avoir entre le drame, par exemple, de Polytechnique, et on peut aller à l'image de Polytechnique, et le conflit suivant, entre deux personnes? Bien, ce matin, Jacques va nous démontrer, va nous dire que dans la vision de Dieu, tous ces conflits-là qui ont des conséquences extrêmement diverses, on parle de drames humains, ont en fait le même origine. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que Dieu veut nous élever. C'est ça que Dieu veut faire. Dieu veut nous élever au-dessus des querelles, des prières égoïstes, des ambitions centrées sur soi, et cette grâce nouvelle qu'il veut nous donner. C'est une grâce nouvelle. Cette grâce nouvelle qu'il veut nous donner est donnée à celui qui s'humilie devant Dieu, à celui qui s'abaisse devant Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, on vient dans ta sainte présence reconnaissant que tu es Dieu. Et ce matin, tu vas nous parler d'élévation et d'humilité. Tu vas nous parler d'être centré sur soi ou d'être centré sur toi, Seigneur. Père, je veux te demander de parler à nos cœurs ce matin dans des situations précises, concrètes de nos vies, dans des conflits au quotidien, dans des prières parfois très égoïstes, Seigneur, qui nous semblent tellement pieuses et tellement belles, Seigneur. Je te prie, Père, de venir nous parler du cœur humain et des relations humaines, Seigneur, puis de notre relation avec toi. Seigneur, je te demande de venir le faire par ton Esprit Saint. Nous nous approchons de toi ce matin, afin que tu t'approches de nous, Père. Nous nous approchons de toi en déclarant, en affirmant qu'en toute chose, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors viens par ton Esprit, approche-toi de nous, Seigneur, et parle à nos cœurs. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jacques, du chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 6, édition Louis II. Jacques, du chapitre 4, verset 1, au chapitre 5, verset 6. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné et vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté.
Merci Camille. Jacques est dur dans son langage, il est extrêmement dur. Jacques parle de guerre. Lorsque vous voyez querelle, si vous allez dans d'autres traductions de la Bible, si vous allez dans des traductions anglaises aussi, vous allez voir des mots comme guerre, wars. Il parle d'adultère. Utilise des termes extrêmement durs pour parler en réalité de querelles entre chrétiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, si vous avez vos Bibles ouvertes avec moi, on parle de conflits entre chrétiens ici. C'est très, très clair au verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui l'a fait habiter en vous, en nous. Donc Jacques est en train de parler à des chrétiens. Il est en train de parler à des gens qui ont en eux-mêmes l'Esprit de Dieu et il leur dit, lorsque je vous parle de vos querelles, de vos conflits, de vos petites chicanes entre vous, en réalité, ce sont des guerres, ce sont des conflits, ce sont des meurtres que vous pratiquez. Parce que Jacques est en train de faire quelque chose ici, et on peut avoir l'impression qu'il est en train d'exagérer, mais en réalité, Jacques est en train de nous donner la perspective de Dieu sur les conflits humains. C'est vrai, lorsqu'on a pris l'image tout à l'heure de Polytechnique ou de Ferguson, ça peut paraître très dur de faire une comparaison parce qu'il y a des gens qui vivent des drames autrement plus grands que celui que moi je peux vivre cette semaine si j'ai une querelle avec mon épouse. Mais devant un Dieu saint, toutes ces choses-là ont exactement la même racine. Exactement la même chose. Lorsque tu te chicanes à la maison avec ton frère, avec ta sœur, lorsque tu te chicanes avec ton épouse, lorsque tu poses un jugement contre un collègue de travail, lorsque tu médis dans le dos de quelqu'un d'autre, aux yeux de Dieu, il s'agit exactement de conflits, de guerres qui trouvent leur même racine dans un cœur qui est en réalité centré sur lui-même. Et simplement vous rappeler comment Jésus parle du sixième commandement. Je ne sais pas si vous savez quel est le sixième commandement. Le sixième commandement, c'est « Tu ne tueras point ». Mais voici ce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point », faisant référence aux 10 commandements dans l'Ancien Testament. « Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, dit Jésus, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raca, maudit » mérite d'être puni par le Sanhédrin, que celui qui dira à son frère « Insensé » qu'il traitera d'épais mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. quoi il pense? Voyez-vous, un élément fondamental lorsqu'on veut connaître Dieu, lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, c'est de réaliser que Dieu est saint. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Et à partir du moment où un être humain prend la décision de poser une pensée, de déposer une parole, de s'engager dans un conflit avec un autre être humain, il est en train d'attaquer fondamentalement ce que Dieu est. Que ce geste-là se termine par un meurtre physique, que ce geste-là conduise à une guerre entre deux nations, fondamentalement, à l'origine, c'est ça qui se passe devant Dieu. Et honnêtement, je pense qu'on n'arrivera pas à vivre dans des foyers où nos enfants vont s'aimer, où les couples vont s'aimer, où l'Église va être ce modèle d'un amour radical. Dont le monde a besoin de voir cet amour radical-là. On n'y arrivera pas si on se dit, bah, c'est juste un petit conflit, c'est juste une mésentente, c'est juste quelque chose qui ne va pas entre nous. Les gens religieux de l'époque, lorsque Jésus est arrivé, s'est installé dans cette vision-là des choses. Ils amoindrissaient tous leurs conflits. C'est ça qu'ils faisaient. Et Jésus est arrivé et a dit, non, vous comprenez pas. Vous autres, vous regardez à l'extérieur, vous regardez vers les meurtriers, puis là, vous les jugez sévèrement. Mais dans vos cœurs, vous êtes de la même nature. C'est ça que Jésus a fait, non? Il a dit, gang d'hypocrites, vous avez juste réussi à contenir, à mettre un masque, à prendre un cercueil puis à mettre un peu de parfum dessus pour qu'il sente pas trop le cadavre. Mais dans le fond, si on l'ouvrait le cercueil, vous êtes aussi pourris en dedans que les gens que vous jugez. Et ce que Jacques est en train de dire, c'est que le remède afin qu'on puisse trouver cet amour au milieu de nous, c'est qu'il faut voir ces choses comme Dieu les voit. Il faut avoir la perspective de Dieu. Autrement, on s'installe là-dedans. On s'installe, puis il y a une espèce de complaisance qui s'installe dans nos cœurs parce qu'on se dit, ben de toute façon, comment est-ce qu'on peut réussir vraiment à faire beaucoup mieux? Comment est-ce qu'on peut avoir des relations qui sont vraiment saines? Toutes ces petites chicanes-là sont normales. Je regarde les gens autour de moi parce que c'est toujours plus facile de regarder les conflits dans le cœur des autres, dans leurs attitudes, leurs comportements. Puis on s'adapte. On s'adapte. Il y a des gens qu'on évite, il y a des mots qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pas par amour. Tout simplement parce qu'il y a tellement de querelles, il y a tellement de conflits, il y a tellement de choses derrière ça qu'on trouve une manière de fonctionner, puis finalement, on ne se parle pas. Il n'y a pas de communion véritable qui se trouve là. Jacques fait quelque chose d'étrange dans son texte qui est surprenant, puis souvent, c'est ça qui est difficile un petit peu à suivre avec Jacques. Regardez bien le texte. Au verset 4, il vient de parler des querelles, il vient de parler des conflits. Au verset 4, il arrive et il dit, « Adultère que vous êtes. » Qu'est-ce qu'il parle d'adultère? « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, est ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » De quoi il est en train de parler ici? Pas parce que j'ai un conflit avec mon épouse que j'aime le monde. Je veux dire, dans ma tête, aimer le monde, c'est chercher des plaisirs du monde. Mais en réalité, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Le péché originel, l'histoire de tous les péchés, le péché originel, Adam, Ève, c'est un endroit, c'est un moment où l'être humain dit tout simplement « Dieu, j'ai pas besoin que tu sois présent dans cette situation-là. » C'est juste ça qui se passe. Merci Seigneur, je t'appelle quand j'ai besoin de toi. On se reparle plus tard, je vais faire mes choix par moi-même. C'est tout ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, est-ce que l'humanité n'est pas devenue ennemie de Dieu? Parce que voyez-vous, c'est une chose pour moi de dire à un sage conseiller comme mon frère Luc ou Luigi, ou je pourrais aller vous voir, m'asseoir avec vous, puis dire, veux-tu me donner conseil sur une situation, tout ça, puis t'écouter, puis ensuite de ça, dire, bien, je vais réfléchir à la question, puis je vais faire ce que je juge bon, puis hein, ça serait honorable, je vous respecterai en faisant la chose. C'est pas la même affaire avec Dieu, tu sais. Tu vas pas voir Dieu en disant, ouais, j'aimerais ça savoir ce que tu en penses. Ça se peut que je fasse pas ce que tu en penses, tu sais. Mais juste comme ça, j'ai voulu avoir ton conseil. Et dans le fond, ce que Jacques est en train de nous dire ici, c'est que chaque fois qu'il y a des besoins dans ma vie, chaque fois qu'il y a des conflits qui apparaissent dans ma vie, chaque fois que j'ai de la difficulté avec un collègue de travail, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui a une promotion, puis j'ai l'impression qu'il y a une injustice qui se manifeste là, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, et que je décide d'exclure Dieu de la recherche de solutions. Chaque fois que je décide de dire, oui, mais là, ça marche pas, puis je fais juste sortir Dieu de l'équation. Je suis en train, à ce moment-là, de me livrer à des passions personnelles. Et dans ce cas-là, le mot est neutre, mais dans ce cas-là, il n'est pas neutre. Hein? Parce qu'on a des désirs, mais lorsque Dieu est exclu de la réflexion, est exclu de cette espèce de moment où je vais déposer mes désirs devant Dieu, chaque fois que je tasse Dieu, mes désirs ne deviennent plus neutres. Le mot qui est là pour parler des passions dans Jacques, c'est un terme super neutre. Je peux désirer mon épouse, ça peut être super sain. Je peux désirer faire un cadeau à quelqu'un, ça peut être super sain. Le terme est neutre. Exclus Dieu de ta vie, le terme n'est plus neutre. Est-ce que vous me suivez? Alors, tu peux avoir plein d'ambitions, des rêves de faire des choses grandes, de faire des choses merveilleuses. C'est sain, c'est bon. Mais exclue Dieu de ces ambitions-là, puis il y a quelque chose qui va se passer très rapidement à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu l'exclus, tu es centré sur toi-même. Et à ce moment-là, mais oui, c'est l'amour du monde, dans le sens de ce monde qui veut vivre sans Dieu. De cette pensée du monde qui dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». Et à ce moment-là, tu as beau être chrétien, tu es en train d'agir comme un ennemi de Dieu. C'est exactement ça que Jacques est en train de relever dans les prières. Si vous regardez le verset 2, vous convoitez, vous ne possédez pas. En réalité, c'est vous désirez. Le terme est plus neutre que ce que j'ai ici en français. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir, vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez, vous ne demandez pas. Vous demandez, OK, vous demandez. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Situation difficile au travail. Je souffre dans cette situation-là. Est-ce que Dieu fait partie de l'équation? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est présent? Est-ce que j'invite Dieu constamment ou est-ce que mes prières sont centrées sur moi? Conflit à la maison. Conflit dans les relations. Puis écoutez, là, on est dans les relations humaines, mais transposez-le dans tout ce que vous vivez. Problème de santé. Perte d'emploi. Est-ce que Dieu est invité à être là dans l'équation? Est-ce que vous êtes ami de Dieu dans cette situation-là ou est-ce que vous avez exclu Dieu? Je suis en train de lire un livre sur la prière de Tim Keller. Excellent, juste en anglais, ça viendra. Mais Keller fait cette déclaration-là. Il dit, la prière est l'endroit où on peut se connaître le mieux. C'est l'endroit par excellence pour grandir. Puis il commence en parlant de l'absence de Dieu. Parfois qu'on expérimente dans la prière, on a le sentiment que Dieu n'est pas présent. Vous avez déjà vécu ça? Tellement souvent, j'ai ce sentiment-là. Puis ce qu'il suggère, c'est qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, en réalité, Dieu est en train de me laisser avec mes propres pensées. Et Dieu est en train de m'exposer à mes propres pensées. Si à l'instant même, je vous faisais fermer les yeux à tout le monde, c'est correct, on a chanté des chants, là, peut-être vous pourriez twister ça un peu. Mais si on fermait les yeux et on gardait le silence pendant 10 minutes, pas 30 secondes, 10 minutes, vous savez très très bien c'est quoi qui vous viendrait à l'esprit. Est-ce que Dieu fait partie de l'équation? Des craintes, des peurs, sentiments d'injustice, amertume, colère. Est-ce que Dieu fait partie de l'équation? Je peux vivre toutes ces choses-là, et Dieu fait partie de l'équation. Mais trop souvent, on est orgueilleux. Puis on veut résoudre ces problèmes-là par nous-mêmes. Et alors, survient exactement ce que Jacques dit. Tu pries, mais tu pries pour que Dieu le change parce qu'il est fatigant. Tu pries pour satisfaire tes passions. Tu es dans un conflit pour éclairer l'autre avec ta sainte lumière. Puis tu veux y montrer son cœur pour lui montrer la voie de la sainteté, suivant Saint Yannick. Parce que Dieu est exclu de l'équation. Et à ce moment-là, c'est vrai que tu es une victime. C'est vrai, c'est probablement vrai que tu es une victime. Mais tu es premièrement victime du fait que tu es ennemi de Dieu. Avant même toute l'injustice que tu peux subir, si Dieu n'est pas présent dans l'équation, si tu ne l'amènes pas là, si tu ne lui demandes pas de venir te conduire, tu es premièrement victime de ton propre péché, du fait que tu te comportes comme un ennemi de Dieu. Et ça, c'est possible pour les chrétiens de vivre ça. Et dans ce temps-là, on vit des années, des fois des années misérables. Misérables. Puis ce que Jacques nous rappelle dans ce passage-là, que je trouve absolument extraordinaire, comment est-ce que Dieu se comporte avec ses ennemis? Comment est-ce que Dieu se comporte avec ses ennemis? Regardez le texte avec moi. J'ai vraiment trouvé ça merveilleux de voir ça apparaître dans le passage. Au verset 5, il dit... Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. De tout temps, Dieu regarde ses ennemis, puis il les invite à venir à lui. C'est comme ça que Dieu agit avec ses ennemis. Dieu est un être gracieux qui nous voit, qui voit toutes les offenses, le fait qu'on se comporte si souvent comme des ennemis de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a fait lorsqu'il a regardé le sort de l'humanité? Il est venu dans la personne de son Fils mourir sur une croix pour nos péchés. En fait, Jacques nous rappelle ici qu'on est déjà l'objet de la grâce de Dieu parce qu'il nous rappelle qu'on a l'Esprit Saint en nous. Voyez-vous, Dieu... regarde les choses, il regarde les querelles, il regarde toutes ces choses-là qu'on vit. Il considère qu'on se comporte comme ses ennemis, mais déjà, il nous rappelle qu'il nous a donné son Esprit Saint. Et ce que Jacques nous dit ici, non seulement vous avez reçu l'Esprit de Dieu, mais Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. Il y a encore une grâce qui est disponible. Il y a encore une grâce qui est disponible de la part de Dieu pour que Dieu vienne intervenir dans tes conflits. Pour que Dieu vienne intervenir dans tes inquiétudes. Pour que Dieu vienne intervenir dans ta vie de prière qui est centrée sur toi-même, qui est une prière égoïste. Il y a encore une grâce qui est disponible parce qu'avec Dieu, la grâce est toujours disponible. L'apôtre Paul va dire, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On est des êtres qui avons tendance à être tellement religieux que lorsqu'on réalise, quand on entend Jacques parler, on entend un message comme celui-là, on dit « Ah oui, c'est vrai, je laisse Dieu à l'extérieur de ça, c'est pour ça qu'il me châtie. » C'est vrai, on est des gens religieux. On est toujours dans des espèces de deals avec Dieu. « Seigneur, je vais faire ça, tu vas me donner ça, puis si tu ne me donnes pas ça, c'est parce que je n'ai pas fait ça. » Non, come on, si vous avez donné ce que vous méritiez, qu'est-ce qu'il vous aurait donné? L'enfer! Comprenez? Vous savez, jamais avec Dieu, c'est ça le deal qui tient. Toujours avec Dieu, c'est grâce sur grâce, sur grâce sur grâce. Toujours avec Dieu, c'est grâce sur grâce. Grâce sur grâce sur grâce. Si l'Esprit de Dieu habite en toi et qu'il te révèle ton cœur, écoute, c'est pas parce que tu as été cool là, qu'il est venu habiter en toi. Honnêtement, c'est pas parce qu'il a dit « Wow, nice heart, moi j'ai le goût d'aller m'installer là, tellement propre, tellement beau, tellement sain. C'est une grâce, non? Eh, oui, il est venu faire le ménage avec le sang de Jésus avant de s'installer là. Mais avec Dieu, c'est grâce sur grâce. Alors, par grâce, je suis sauvé. Et Jacques, dans le fond, ce qu'il est en train de me dire ici, c'est par grâce, je suis sanctifié, je suis transformé. Et donc, tu as été gracieux, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Puis, dans toutes sortes de circonstances dans ta vie, tu te comportes comme un ennemi de Dieu. La grâce est encore disponible. Elle est encore là, disponible. Il y a une grâce plus excellente encore qui est là pour toi. Et donc, si ce matin, tu es là puis tu te sens condamné par le fait que tu dis, c'est vrai dans le fond. Je réalise que j'essaie de régler ces problèmes-là par moi-même. La grâce est encore disponible. Tu ne peux pas arriver au bout de la grâce de Dieu. Tu ne peux pas arriver au bout de la grâce de Dieu. Dieu veut nous élever, c'est ça qu'il veut faire. Dieu veut nous élever, et pour nous élever, il dit, viens goûter à ma grâce. Abaisse-toi pour que je puisse t'élever ensemble. Le paradoxe de la grâce de Dieu est qu'elle nous abaisse, elle nous humilie. Et puis elle nous élève tout à la fois. La grâce de Dieu nous enseigne l'humilité et nous élève plus haut. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'à celui qui arrête de se battre avec Dieu puis qui invite Dieu à intervenir dans sa vie, Dieu fait grâce pour l'élever. Mais il faut premièrement s'humilier pour arriver là. Regardez la suite du passage. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce que Dieu veut faire, avec ces conflits-là qui te gardent la tête dans la boue, ces conflits-là qui te gardent par terre, en échec, en situation d'échec, ces requêtes-là où tu es en lutte avec Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut t'élever, c'est ça qu'il veut faire. On n'a pas un Dieu machiavélique qui prend plaisir à voir les hommes comme de petites fourmis qui est en train de dominer. On a un Dieu qui a fait de nous des co-héritiers de Christ. Il veut former Christ en nous. Il veut nous élever comme Christ était au-dessus des conflits. Les gens le méprisaient, les gens l'haïssaient, il les aimait en retour. C'est vrai? Il aimait ses ennemis. Au moment même de sa mort, il est en train de prier pour eux. Moi, je veux apprendre à prier comme Jésus sur la croix. C'est comme ça que je veux apprendre à prier. Où je ne suis pas en train de chercher à servir mes passions personnelles, mais je suis en train de chercher à servir les gens autour de moi. Et Dieu veut m'élever là, veut m'amener là, veut m'amener au-dessus des conflits, au-dessus des prières égoïstes, au-dessus des ambitions qui sont centrées sur moi-même. Et voyez-vous, tout le passage qui semble un petit peu décousu, parce qu'après ça, il va dire... Ne médis pas, ne parle pas mal contre les gens. Après ça, il va dire, tes projets, dis-toi pas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dis si Dieu le veut. Implique Dieu dans tes projets. Après ça, il parle aux riches. Il dit, riche, si tu vis avec toutes tes richesses, centrée sur toi-même. Prophète-en, mon vieux, parce que de l'autre bord, tu vas rendre des comptes pour tout cet égoïsme. Et donc, dans toutes ces situations-là, Jacques est en train de faire une application de cette humilité. Cette humilité où je reconnais que par moi-même, il y a un conflit qui survient, j'essaie de le régler par moi-même, sans inviter Dieu dans mon conflit. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais le faire en servant mes propres passions. Je vais m'engager dans la conversation, je vais penser que je suis en train de faire le bien, puis en cours de conversation, je vais commencer à manquer d'amour, c'est ça qui va se passer. Je vais aller dans la prière, je vais aller dans la prière pour satisfaire mes propres passions. C'est ça que je vais faire. Et lorsque Dieu, dans sa grâce, m'aide à prendre conscience de ça, je vous dirais, ça se fait vraiment bien dans la prière. Quand vous allez dans la prière, appliquez cette toute petite règle-là. Priez jusqu'à temps que vous commenciez à prier. Moi, j'aime ça faire ça le matin à 5h30 du matin. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 5h31, mon cerveau est en train de penser à tellement d'autres choses que Dieu. Mais j'ai besoin de ce silence-là où je m'arrête et je dis, Seigneur, tu es juste comme pas là un matin. J'ai déjà tous mes soucis dans ma tête, dans mon cœur. Puis à un certain moment donné, c'est comme si Dieu me disait, « Mais oui, mais c'est de ça que je veux te parler, de tes soucis, Yannick. Tu ne vois pas tout ce qu'il y a sur ton cœur. » Et c'est exactement ça que Jacques est en train de dire ici lorsqu'il dit, « Approchez-vous de Dieu, homme irrésolu. Lavez vos cœurs, lavez vos mains. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » À cet endroit-là, à ce moment-là, j'invite Dieu à venir dans mes conflits, dans toutes ces situations-là. Je l'invite à intervenir à ce moment-là, à cet endroit-là. C'est une œuvre divine qui se passe en moi, mais c'est une œuvre divine qui demande ma réponse à moi. Qu'est-ce que Jacques dit? Approchez-vous de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté, mais vraiment arrêté, pour dire, Seigneur, j'ai cette situation-là qui est ingérable, désespérante, j'ai toutes sortes de colères, de frustrations, toutes sortes de manières de vouloir gérer ça tellement loin de toi, mais j'ai besoin que toi, tu sois là, Seigneur. Et je vais prendre le temps de m'arrêter ici pour m'approcher de toi. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes. Moi, je suis un gars hyper intentionnel. Ça devient fatigant. Les gens autour de moi ont l'impression que je ne pose jamais un seul acte naïvement. Je vous le dis. Je me fais souvent dire ça par mes enfants, par ma femme, papa. Non, mais c'était juste comme ça. Je suis un gars hyper intentionnel. Hyper intentionnel. Mais ce que ça veut dire, c'est que je suis toujours en train de faire des plans pour toutes. Fait qu'il arrive un problème, j'ai pas le genre de personnalité qui s'écrase. Vous me parlez de ma colère, des fois que je vous parle un petit peu trop souvent, peut-être. Moi, là, je veux dire, vous me rentrez dedans avec votre char, là, je vous regarde pas venir. Hein. J'ai pas cette personnalité-là. Vous me foncez dessus avec un poing levé, ben je m'en vais pas me mettre une petite boule dans un coin à sucer mon pouce. J'ai pas cette personnalité-là. Il arrive un problème dans ma vie, j'ai pas tendance à me pousser en courant, j'ai tendance à savoir juste chercher c'est quoi l'angle, qu'est-ce que je dois faire? Faut tasser une montagne, on commence par où à pelleter? C'est comme ça. Je sais pas comment est-ce que vous êtes, mais pour moi, garder Dieu à l'extérieur de ça, c'est justement ça. Je m'arrête même pas pour dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Je suis déjà en train de la pelleter la montagne puis dire, c'est correct, je t'appelle quand je suis fatigué. C'est ma stupidité à moi. Je ne sais pas c'est laquelle la vôtre. Ça dépend de vos personnalités. Peut-être que vous êtes là dans votre petit coin. En train de fuir. C'est ça votre personnalité. Moi, je ne suis pas ça. Comment est-ce que ça s'exprime dans votre vie à vous, le fait que vous ne vous approchez pas de Dieu? C'est quand la dernière fois que tu t'es approché de Dieu, tu es venu vers Dieu et tu lui as dit, Seigneur, je suis misérable dans cette situation-là. J'arrive pas à m'en sortir. On va prendre le repas du Seigneur ensemble dans quelques instants, puis on va chanter un vieux cantique. Un cantique qui nous parle d'un Dieu qui s'est approché de nous. D'un Dieu qui a fait les premiers pas vers nous. Mais toujours, 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 ce Dieu-là qui veut encore une fois nous couvrir de sa grâce nous demande à nous de nous approcher de lui. Et ce que Jacques dit ici, est-ce que Dieu est ton ami? dans tes finances personnelles. C'est ça qu'il dit aux riches, hein? C'est ça qu'il dit aux riches. Pense aux pauvres, le riche. Inclus Dieu dans la gestion de tes finances personnelles. Vos relations qui sont difficiles, des gens que vous avez de la difficulté à aimer. Est-ce que vous avez invité Dieu à venir dans ce conflit-là? Ailleurs dans les Écritures, Dieu dit qu'il veut être notre ami. Est-ce que Dieu, dans ta gestion de tes finances, dans ta gestion de tes conflits, dans ta gestion de tes rapports humains, dans ta gestion de tes passions, dans ta gestion de tes projets, est-ce que Dieu est ton ami dans ces projets-là ou est-ce que tu te comportes à l'égard de Dieu comme s'il était ton ennemi, tu le gardes à l'extérieur de ça? Mais Dieu veut t'offrir une grâce plus excellente. Et si son esprit ce matin te convainc, approche-toi de Dieu, parce qu'il veut t'élever au-dessus de toutes ces choses-là pour que tu sois comme Christ. C'est ça qu'il veut faire avec toi. On va aller ensemble dans un mot de prière et je veux vous inviter à chercher dans vos cœurs ces endroits où vous n'avez pas invité Dieu à être votre ami. Puis vous êtes misérable. Vous êtes misérable parce que vous essayez de gérer ça par vous-même, au mépris de l'Esprit-Saint qui est en vous. Puis ce matin, ce n'est pas un fardeau que je vous apporte, c'est de l'aide que je vous offre. C'est une grâce renouvelée, grâce sur grâce, de venir déposer au pied du Seigneur ces fardeaux-là. Pour arrêter d'essayer de vous en sortir par vous-même en y allant de vos propres passions. Tu n'arrives pas à t'entendre avec ton frère, avec ta sœur, avec ta femme. Tu n'arrives pas à construire ta vie. Tu bâtis des projets, ça s'effondre. Tu n'arrives pas à savoir où tu t'en vas dans la vie. Tu es pris avec plein de luttes à l'intérieur. Je vous offre cette grâce ce matin parce que Dieu vous l'offre encore une fois, de vous approcher de lui, de mesurer votre misère et de le laisser devenir votre ami dans cette situation-là. Seigneur Jésus, Seigneur, tu me connais, je suis tellement indépendant. Je suis tellement indépendant, Seigneur, de mille et une manières. J'ai réponse à tout, j'ai des solutions pour tout, Seigneur, jusqu'à ce que j'arrive au désespoir. J'ai toujours mille et un projets, Seigneur, qui sont nés dans mon cœur, mais qui n'ont pas nécessairement été portés dans la prière, Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais Yannick Étier. Et dans ta bonté, j'apprends à connaître Yannick Étier. Lorsque je suis là dans la prière en silence et que je commence à prier jusqu'à ce que j'entende les pensées qui préoccupent mon cœur, qui occupent toutes mes pensées, qui accapare mon énergie, qui me distrait de toi. Et là, dans cet endroit-là, lorsque je m'approche de toi humblement, dans un moment doux, dans la prière, Seigneur, je commence à devenir comme un témoin extérieur. Je commence à voir ma folie, ma bêtise, de vouloir essayer de tout solutionner sans toi, Seigneur. Je commence à voir les motifs doubles de mon cœur alors que je voudrais expliquer à tout le monde comme il serait bien et bon s'il suivait Saint Yannick. Et je commence à découvrir la bêtise de mon cœur, Seigneur. Alors commence à naître en moi cette humilité tellement nécessaire. Seigneur, libère-nous de cette religiosité qui nous amène à prendre ta parole pour se servir de ses principes, pour faire du mal, pour se justifier. Libère-nous de cette religiosité qui fait que nous allons dans la prière pour te dire ce que tu dois faire plutôt que te rencontrer et t'inviter, Seigneur, à nous conduire. Seigneur, tu nous as sauvés par grâce et par ta grâce que ton esprit habite en nous. Accorde-nous cette grâce nouvelle de nous humilier dans ta présence et viens, Seigneur, nous élever au-dessus de ces passions égoïstes afin que nous portions ce message d'amour, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.